D'un générique de musique de série, on est presque plus proche de l'habillage comme les jingles d'une radio. C'est récurrent, c'est quelque chose qu'on doit retrouver avec plaisir, qui doit revenir et s'identifier tout de suite.
When I'm talking about themes, I'm basically referring to a musical idea that recurs and that may evolve over the course of the show.
David got up, gave me a big hug. He said, Angelo, that's Twin Peaks.
Pour un compositeur, d'avoir une source d'inspiration, c'est, je pense, le plus important. Et en l'occurrence, moi, ça reste les histoires et l'image.
Il y a dans certaines séries un intérêt pour décaler une atmosphère simplement avec une musique.
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre, une émission Téléfil. Ce dimanche, une heure de radio sur la musique, en musique, sur la musique des séries que nous aimons aujourd'hui. C'est la série musicale, bienvenue. Et quel plaisir d'ouvrir cette émission sur ce thème majestueux. Est-ce que, comme moi, lorsque vous l'entendez, vous retrouvez ces silhouettes de conifères, de pins et l'atmosphère bleutée d'une petite ville américaine fictive, la ville de Twin Peaks? Peut-être que oui. Et si vous pouvez la voir, cette ville de Twin Peaks, c'est grâce à l'immense pouvoir d'évocation de la magnifique bande originale composée pour cette série de David Lynch, qui n'a duré que 2 saisons, mais a tant marqué l'histoire de la télévision américaine et mondiale, par Angelo Badalamenti, le compositeur de la bande originale de cette série et de bien des films de David Lynch. Alors bien sûr, depuis la création de Twin Peaks en 1990, les séries ont quitté le petit écran, elles sont devenues, on peut le dire, omniprésentes dans notre vie, avec le développement, évidemment, de grande série à la fois sur les plateformes et à la télévision. Et avec elle, évidemment, ce sont les musiques de ces séries qui se sont installées au mi-temps de notre vie. Leur générique, bien sûr, c'est ce que vous entendez ici, le thème principal de Twin Peaks. Notre merveilleux réalisateur Colin Gruel, qui a concocté lui-même un magnifique générique pour cette émission, vous a bien entendu donné à entendre celui de Game of Thrones, immédiatement reconnaissable. Mais pourtant, on avait envie de se pencher sur ce qui fait que ces musiques fonctionnent si bien. Rien à voir en réalité avec une musique de film qui doit accompagner un projet fictionnel d'à peine 2 heures. La musique de série, elle, doit vous permettre de reconnaître le terrain dans lequel vous vous engagez, de vous y accompagner, le plaisir de revenir à une série connue et aimée, mais aussi tout simplement de ne pas vous lasser de porter des personnages que vous allez retrouver, suivre de saison en saison sur parfois 5, 7, 12, 20 ans. Les personnages que vous aimez, comment existent-ils? Comment la musique de la série Succession nous raconte-t-elle que nous sommes dans un drame shakespearien, mais bien au 21e siècle? Comment celle de Game of Thrones nous permet-elle de nous attacher à des personnages qui sont innombrables, qu'on a du mal à différencier, qui sont complexes et évoluent dans des réalités absolument différentes? Et comment faire vivre l'étrangeté d'atmosphère, d'images comme celle de David Lynch ou de la série The Revenant? On tentera, dans un temps bien trop court, de répondre à ces questions dans un tour d'horizon amoureux, forcément subjectif et nécessairement non exhaustif, du génie de ces compositeurs et trop peu nombreuses compositrices de musique à l'image dans la série musicale sur France Culture, bien sûr. Vous êtes des aficionados de France Culture, vous avez sans doute reconnu ce morceau qui en 1 minute 40 a conquis le monde entier, mais aussi le cœur de notre radio, puisque c'est le générique d'une de nos émissions quotidiennes, Affaires culturelles. Évidemment, Arnaud Laporte et son équipe l'ont piqué en réalité à sans doute l'une des meilleures séries télévisées de ces 10 dernières années, disons-le franchement, à savoir Succession, lancée en 2018 sur HBO et qui s'est achevée en cette année, l'année dernière, en 2023, au terme de 4 saisons suivies avec délice par toute une série d'aficionados. C'est l'immense, le brillantissime américain Nicolas Brittle, compositeur formé à Harvard, qui revendique, et ça n'est pas si étonnant, d'être à la fois influencé par le compositeur russe, père d'une forme de modernité, Rachmaninoff, grand compositeur symphonique, autant que par Dr. Dre, le producteur de rap mythique des années 90. Et ce générique nous dit bien ces deux influences. Ce générique qui a certainement beaucoup fait pour l'immense succès de cette série télévisée, qui a priori ne pouvait ne pas nous en attirer plus d'un. Car de quoi parle Succession et comment ce thème en 1 minute 40 parvient-il réellement à ancrer la série, à nous dire ce qu'elle est, ce qu'elle nous promet? Eh bien, Succession, c'est évidemment cette série télévisée, si vous ne l'avez pas vue, dans laquelle on suit Logan Roy, un mania de la presse, très directement inspiré de Rupert Murdoch, qui s'est fait tout seul et qui dirige dès à présent un empire des médias devenu un hyper riche avec l'âge qui arrive. La question se pose de sa potentielle succession et lequel de ses 4 enfants, et notamment, pourrait-il reprendre la grande affaire? Il y a Kendall, l'aîné, qui a tout fait pour égaler son père mais a du mal à y arriver, qui écoute beaucoup de rap. Il y a Shivan, la puinée, intelligente, bien insérée dans les réseaux politiques. Roman, le golden boy excessif, qui pourrait néanmoins être un cheval intéressant. C'est une fable absolument cynique sur les ultra-riches, tournée comme un soap-opéra avec des effets de caméra dignes de la télé-réalité. Une série qui fonctionne un peu comme un drame shakespearien, avec cette relation familiale terrible, déchirante, faite de cruauté et de petitesse dans le monde de Kim Kardashian. Alors comment réellement cet thème principal de succession qui va se décliner tout au long des 4 saisons fonctionne-t-il pour nous dire tout ce que je viens de vous raconter en 1 minute 40 à peine? Eh bien, Nicolas Brittle a réussi à le faire dans ce générique. Il a justement, et vous l'avez certainement entendu, tenté de juxtaposer des choses qui nous disent où nous sommes. Il y a ces cordes très 17e siècle qui ancrent puissamment, directement d'emblée, la musique dans une atmosphère très classique, 17e-iste. Il nous dit très concrètement qu'on est dans une atmosphère tragique. Et puis il y a ces basses de producteurs de rap qui ancrent tout de suite la série dans une forme de modernité. Et ce thème principal au piano qui reste en tête, ce thème principal à la fois enjoué, rapide, mais néanmoins angoissant, qui tout de suite, sans qu'on le comprenne vraiment inconsciemment, nous dit que quelque chose ne va pas. Nicolas Brittle, il y a 3 ans, expliquait dans Vanity Fair comment justement il a conçu ce petit court thème au piano qui nous dit tout. Il y a cette dissonance immédiate dès le début de la pièce. Vous entendez cet accord en do mineur, mais en fait c'est un si bémol. Vous avez tout de suite la sensation qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et la ligne mélodie, quand on la regarde un peu, dès le début, encore une fois, il y a cet accent, cette dissonance qui n'est pas dans l'échelle. Là, on est en tonalité en mi bémol majeur et cette note-là, elle n'est pas dans cette clé. En fait, je cherche constamment à nourrir la musique de ces petites bizarreries, de ces notes qui ne sont pas dans l'échelle musicale pour faire basculer le ton général qui nous dit que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles devraient être. Thank you. Vous reconnaissez ici toujours quelques éléments des accords que vous aviez entendus dans le thème principal de Succession, générique saison 1. Là, on est dans la saison 2. Et ce que fait Nicolas Brittle, c'est de développer ce qu'il appelle une idée musicale, car c'est tout l'enjeu dans une série. Là, dans ce court morceau qui s'appelle Maestuoso Piano Solo et qui accompagne la saison 2, Nicolas Brittle reprend le début des accords de son thème principal au piano, mais le fait évoluer vers un thème en mineur, un peu dans une esthétique romantique à la Liszt ou à la Chopin, qui accompagne cette saison 2 qui, d'une certaine manière, est une saison assez émotionnelle, qui va sur le terrain où les choses commencent à se désassembler. Et bientôt, dans la saison 3, ce seront les mêmes accords repris cette fois par des cordes extrêmement majestueuses, voire cryptiques, un peu comme une messe solennelle, car à mesure que la série avance, le ton se fait de plus en plus douloureux, de plus en plus difficile. Vous voyez comment cette idée musicale, Nicolas Brittle va la travailler au fil des saisons pour à la fois nous permettre de reconnaître de l'univers dans lequel on est, de s'y retrouver comme dans des petits chaussons, et en même temps de nous dire comment, vers quel ton la série évolue. En parallèle de cela, il continue à créer des thèmes originaux pour chacune des saisons, comme par exemple cette petite suite pour piano et violoncelle qui s'appelle Toscani et qui accompagne un mariage en Toscane. On est ici plutôt dans un esprit baroque, une forme de normalité. À l'écran, on croit que tout va bien se passer, alors que tout est sur le point de sombrer.
Thank you.
C'est le thème de la série Made in France, Lupin, série qui a eu un succès énorme sur Netflix que vous entendiez. Le thème principal baptisé Arsène, du prénom évidemment de notre héros. Le compositeur à l'œuvre ici, c'est un compositeur français, Mathieu Lambollet, qui n'avait jamais composé de musique de série jusque-là. C'est très intéressant d'écouter ce que fait Mathieu Lambollet dans ce générique. Là encore, un peu à l'image de Nicolas Britel, il a une idée musicale qui consiste à nous dire le projet de la série. Il y a la clarinette basse, vous l'avez entendu dès le début, qui est l'instrument symphonique français par excellence, très 19e, qui d'une certaine manière incarne ce personnage d'Arsène Lupin qui nous vient de la littérature de feuilleton de la fin du 19e siècle. Et soudain, ces basses de production beaucoup plus 20e, 21e siècle, dignes du R&B ou du rap, qui l'ancrent décidément dans la modernité, et ces cordes très élégiaques qui s'envolent avec un orchestre symphonique, qui nous fait penser à des grandes bandes originales de films des années 70, ou par exemple à des James Bond. L'idée, c'est véritablement de prendre cette figure mythique et très française d'Arsène Lupin et de la Netflixiser, de lui donner aussi une ampleur plus épique pour qu'elle puisse conquérir un public international, ce qu'elle a fait. Mathieu Lambollet, justement, Lambollet expliquait dans Musique Matin en avril 2023 justement comment il avait construit l'esthétique de ce thème principal.
Dans ce thème de Lupin, l'idée était de mélanger mon inspiration symphonique et des grands classiques avec des rythmiques un petit peu plus actuelles et des instruments, mettre en avant certains instruments. Là, on parlait de la voix, mais il y a aussi le cymbalum, la clarinette basse qui apporte ce petit côté, disons, malicieux et mystérieux au thème. Et après, le 70s, je pense qu'il vient de l'approche thématique, puisque dans ces années-là, on avait une approche très thématique et puis il y avait aussi, disons, le mélange de plus en plus avec la musique symphonique, avec le jazz. Et à mon sens, moi, c'est vrai que c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Enfin, toutes ces années, on a l'âge d'or du cinéma. Bon, peut-être qu'on a en référence ces grands classiques quand on écoute ce style de musique, oui.
Thank you.
Goodbye Brother, l'un des premiers thèmes composés pour la série qui sans doute a été la plus vue de l'histoire des séries, à savoir évidemment Game of Thrones. Le compositeur à l'œuvre ici s'appelle Ramin Djawadi et ironie du sort, il a failli refuser ce projet auquel au départ peu de gens croyaient. Lui est allemand, assistant orchestrateur de l'un des plus grands compositeurs de musique à l'image, j'ai nommé Hans Zimmer, formé aux meilleures écoles, hein, qui a évidemment fait la Berklee School, qui a failli refuser donc de travailler sur Game of Thrones parce qu'il trouvait que le projet n'était pas clair, avant que finalement les deux showrunners ne lui montrent les deux premiers épisodes. Il a été extrêmement impressionné et a tout de suite vu l'ampleur du projet et l'idée finalement que la complexité de cette série allait pouvoir lui donner beaucoup de matière pour travailler. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu Game of Thrones, que c'est une série qui voit s'affronter sept grandes familles dans un continent qui contient sept royaumes. Et suit d'une part deux types de luttes, une lutte politique pour le pouvoir entre plusieurs familles, et notamment la famille Stark qui règne sur le royaume du Nord, et d'autre part un combat contre les forces obscures. Avant que ces deux luttes ne se rejoignent, il y a une foule de personnages qui évoluent dans des univers totalement différent. L'idée, c'était de travailler sur des thèmes, des couleurs destinées à enrichir la puissance de l'arc narratif de chacun de ces personnages. Ce que vous avez entendu en entrée de jeu, c'est le thème de la maison Stark. C'est donc cette famille qui règne sur le royaume du Nord. C'est le premier thème que compose Ramin Djawadi. Et tout de suite, il utilise ce violoncelle, là, vous l'avez entendu, ce violoncelle assez déchirant, qui va devenir la marque de fabrique. Chacun des personnages de la famille Stark a toujours un violoncelle dans son thème principal. Le thème que vous entendiez à l'instant, c'était un thème qui lui suit les Dothraki, des personnages qui évoluent sur un autre continent, beaucoup plus aride, inspiré des steppes. Et là, ce sont toute une autre gamme d'instruments qui sont à l'œuvre, des didgeridoo, du doudouk arménien, pour nous dire qu'on est dans un autre, évidemment, dans un autre univers. Cette question, justement, de l'approche thématique dont parlait Mathieu Lambollet, elle est au cœur de l'écriture de la musique des séries. L'idée, c'est véritablement, d'une certaine manière, d'accompagner ces personnages. Pour Ramin Djawadi, comme pour l'immense majorité des compositeurs de musique de film, on travaille à la fin, c'est-à-dire une fois que le tournage est terminé. En l'occurrence, Ramin Djawadi, comme il l'expliquait souvent, se mettait avec les deux showrunners de la série et commençait à disséquer chacun des épisodes pour comprendre où la musique commençait, où elle s'arrêtait. C'est ce que j'ai aimé avec ce projet. La plupart du temps, quand il n'y a pas de musique, c'est un choix. C'est l'une des musiques de série qui est les plus jouées aujourd'hui dans le monde. Et ce processus de création, de composition, c'est celui qui est traditionnellement utilisé. Ce n'est pas le cas, justement, dans les cas de Twin Peaks avec lequel nous avons ouvert cette émission, ce qui comptera, hein, évidemment, dans l'histoire des séries, non seulement en tant qu'objet télévisuel, mais aussi en tant qu'objet musical, puisque l'album s'est presque encore mieux vendu que la série n'a été regardée. C'est l'incroyable Angelo Badalamenti qui est à l'œuvre et lui, évidemment, travaille avec David Lynch. Thank you. des vents, ce synthé évocateur, c'est Audrey's Dance, la danse d'Audrey, un morceau absolument génial dans Dio Badalamenti, le morceau de cette figure assez fantasmagorique qui est Audrey, l'un des personnages de Twin Peaks, une jeune fille rêveuse et son thème lui correspond. La particularité de Twin Peaks, c'est que les thèmes sont d'une immense variété, à la fois en termes de structure, d'idées musicales. Ici, on est dans un morceau de jazz smooth qui progressivement dégénère car les accords d'une certaine manière se défont. Pourquoi cette bande originale de Twin Peaks fonctionne-t-elle si bien? C'est parce que contrairement à ce qu'on vient d'évoquer, Badalamenti n'a pas travaillé après le tournage mais bien avant sa composition, son principe de composition. C'est un principe de composition totalement fusionnel avec David Lynch qui, avant même de tourner, lui décrit les séquences et construit son film en réalité à partir de la musique qui a été écrite, construit sa série, à partir de la musique qui a été écrite en amont. C'est parce qu'il a une idée visuelle qu'il l'a fait traduire en musique et qu'il est ensuite capable de la tourner. On avait évidemment très envie de vous donner à entendre Angelo Badalamenti qui nous a quittés l'année dernière, qui dans un entretien vidéo à la fin des années 2000 racontait comment il avait composé sur son petit synthétiseur le magnifique thème de Laura Palmer, l'héroïne disparue de cette série de Twin Peaks, l'héroïne mystérieuse, Angelo Badalamenti, qui a composé ce thème avec David Lynch bien avant que les images n'existent, en co-inventant la musique et les images, une archive de 3 minutes 46 secondes qu'on vous donne à entendre dans son intégralité.
David would sit right over here, right to the right of me.
David s'asseyait juste ici à ma droite. On mettait un enregistreur sur le synthé qui enregistrait tout. David s'asseyait et il me disait
Angelo,
nous sommes dans une forêt sombre maintenant. Il y a un vent très doux qui passe entre les sycomores.
Il y a une lune et
la lune brille fort. On entend des bruits d'animaux derrière. Il y a le ululement d'une chouette. Emmène-moi là-bas, dans cette obscurité splendide. J'ai commencé à jouer ça. Et David m'a dit: Angelo, c'est magnifique. C'est une bonne ambiance. Mais est-ce que tu peux le jouer un peu moins vite? Plus doucement, ok. C'est ça, c'est le bon tempo, ça. Continue doucement. Continue comme ça pendant un moment. Et je pouvais voir sur le visage de David qu'il était en train de visualiser ce qu'il me décrivait. Et là, il me dit: Ok, Angelo, maintenant, on doit opérer un changement. Car juste derrière les arbres, il y a cette jeune fille très solitaire. Elle s'appelle Laura Palmer. C'est très triste ce qu'il y a en elle. Est-ce que tu peux essayer de trouver ça? Et il dit: mais c'est ça, c'est très beau. Je peux la voir. Elle marche vers la caméra. Elle s'approche. Continue à construire ça. Construis. Elle s'approche. Faut que tu arrives à un genre de climax. Oh, mais oui, c'est ça. C'est si beau. Angelo, c'est en train de me briser le cœur. J'adore ça. Continue. Mais elle commence à s'éloigner. Descends. Continue de descendre. Descends. Retournons dans la forêt sombre. C'est ça. Doucement. continue. Très mystérieux, très doux.
David
s'est levé. Il m'a fait un gros câlin.
Angelo.
Il m'a dit Angelo.
That's Twin Peaks.
Ça y est, j'ai Twin Peaks. Écoutez, après cette archive incroyable d'Angelo Badalamenti, Hungry Face, c'est le générique d'une série qu'on a beaucoup aimé, Les Revenants, une série Canal+, dont la bande originale était signée par le groupe Mogwai. C'est encore un cas assez intéressant, car en réalité, Mogwai, qui est donc ce groupe anglo-saxon, a été invité à produire la musique de cette série. Et ils avaient juste lu un synopsis. Là encore, le processus de création a été un peu différent. Ils ont répondu en envoyant au producteur des démos qu'ils avaient écrites. L'idée était de se mettre d'accord sur une ambiance générale avant de potentiellement rentrer dans un processus d'écriture assez classique. Mais en réalité, la plupart des producteurs avaient déjà commencé à tourner. Et l'idée, c'est que ils ont dit à Mogwai, en réalité, on a déjà commencé à travailler. Est-ce que vous pouvez nous envoyer ? On commence à jouer vos démos pendant le tournage. Et en réalité, c'est ce qu'il s'est produit, c'est-à-dire que les démos qui avaient été utilisées, envoyées plutôt pour donner une idée de la musique qui serait faite, a été jouée pendant le tournage et est devenue ce qu'on appelle une active soundtrack, c'est-à-dire une soundtrack, une bande originale qui participe à la création même des scènes, c'est-à-dire que pendant que les scènes étaient tournées, on jouait la musique de Mogwai, une expérience qui les a évidemment beaucoup, beaucoup touchés et qui a vraiment fait que la série fonctionne un petit peu comme si la musique était un personnage de cette série dont on regrettera toujours qu'elle n'ait jamais été à la hauteur de ses débuts. Le cas Mogwai, revenons, a fait un peu cas d'école, même si c'est toujours un peu compliqué pour des groupes de travailler de concert sur une bande originale de série. Les systèmes évidemment de production ne sont pas les mêmes. Très souvent, les groupes on fait appel à eux pour simplement le générique d'une série. Or, le générique d'une série aujourd'hui n'est plus véritablement le vrai enjeu, comme l'expliquait Loïc Durie, qui travaille beaucoup avec Cédric Clapiche, et qui explique comment justement la musique de série se différencie de la musique de film. On verra comment, dans beaucoup de séries aujourd'hui, on est sans doute plus intéressé par les thèmes liés aux personnages que par les génériques eux-mêmes.
Un générique de musique de série, on est presque plus proche de l'habillage comme les jingles d'une radio, puisque c'est récurrent, c'est quelque chose qu'on doit retrouver avec plaisir, qui doit revenir et s'identifier tout de suite. Alors que le but d'un générique de cinéma, c'est vous sortir de votre quotidien, de votre réalité, pour vous déposer dans un film. Donc il y a une idée de voyage et de mouvement dans le générique de cinéma qu'il n'y a pas du tout dans le générique de série, qui doit être impactant de façon très très rapide. En plus, maintenant, les génériques de série sont très très courts. Au début, le générique était un objet en soi. Maintenant, on zappe les génériques. La majorité des séries sont consommées sur des plateformes. Et aujourd'hui, sur les plateformes, quand on arrive au moment du générique, maintenant, on a tendance à auto-sauter les génériques. Donc, c'est aussi une différence entre, justement, le cinéma et la télévision. C'est l'histoire de la durée et de l'impact. Je pense que c'est ça la plus grande différence. Donc, aujourd'hui, on fait des génériques moins personnels et plus forts, plus identifiés. Identifiant immédiatement.
Vous écoutez The Game Is On, l'un des thèmes que l'on préfère de la bande originale de la série Sherlock, série grandiose de la BBC avec tout comme toujours une immense vraiment déploiement de moyens avec l'orchestre de la BBC. À la composition ici, c'est David Arnold et Michael Price. Pourquoi finir sur ce sublime morceau avec la présence de mandoline qu'on affectionne particulièrement. Donc parce que c'est un bon exemple, The Game Is On n'est pas le générique de Sherlock, pourtant c'est sans doute le morceau le plus marquant. Le générique en lui-même ne dure qu'une soixantaine de secondes, on va avoir tendance d'ailleurs à pouvoir le zapper sur une plateforme de streaming. Et c'est ce morceau The Game Is On que l'on aime particulièrement qui apparaît lorsque l'on découvre Sherlock, interprété par Dominique Cumberbatch, et que finalement on découvre sa rapidité de pensée. C'est ce que ce morceau met en scène, la manière dont son cerveau fonctionne avec ses petites cordes qui s'accélèrent à mesure que le héros détaille la liste des détails, justement, des choses qu'il avait remarquées et que nous, spectateurs, nous n'avions pas vues. C'est la fin de cette émission. Déjà, c'était Colin Gruel à la réalisation d'Alia, à la technique Lou Quevauvier, l'attaché de production. Le festival Sérimania est en cours. N'hésitez pas à y passer une tête. Et n'oubliez pas de podcaster et de noter la série musicale sur toutes les bonnes plateformes de podcasts.